Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, c'est la dernière fois, le dernier dimanche, où nous avons comme sujet de méditation, au fond, la vie cachée de Jésus. Dimanche prochain, nous aurons les noces de Cana, premier miracle de Jésus. Il y aura évidemment une exception, puisque nous solennisons la Chandeleur le 2 février, le dimanche qui suit. Nous serons replongés, effectivement, le premier dimanche de février, à nouveau dans la vie cachée, mais nous pouvons dire quand même que c'est aujourd'hui la fin de la vie cachée. Ça tient un peu de place dans la liturgie, parce que cette vie cachée tient un peu de place aussi dans l'Évangile, mais cependant, ne sous-estimons pas son importance. La vie cachée a quand même été l'essentiel de la vie du Seigneur sur la terre. C'est mystérieux pour nous peut-être, mais 30 ans de vie cachée pour seulement 3 ans de vie publique. Si Jésus a voulu passer 30 ans dans sa vie cachée, eh bien c'est certainement riche d'enseignements pour nous. Ce n'est pas pour rien qu'il a connu ces 30 années de vie cachée. Nous avons médité sur le mystère de Noël, l'incarnation du Verbe. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Oui, Jésus s'est fait homme, il n'a pas fait semblant. Il n'a pas pris seulement l'apparence humaine, il a vraiment pris notre nature humaine, un vrai corps, une vraie âme, une vraie intelligence humaine, une volonté humaine, une sensibilité. Il a voulu tout connaître de notre vie, à l'exception bien sûr du péché. Il a voulu connaître d'abord une vie de famille, faire l'expérience de cette société miniature. Nous disons que la famille est la cellule élémentaire de la société. C'est bien ça, oui. Une petite cellule, une petite société miniature. Un seul lieu où on découvre la communion entre les personnes. Cette communion scellée par l'amour, spécialement l'amour don, l'amour oblatif. Et l'amour dont Jésus fait l'expérience dans la Sainte Famille n'est pas un sentiment superficiel et passager. Ça n'est pas une émotion. Non, cet amour qui est charité, amour de Dieu et du prochain, c'est bien un acte de la volonté. Oui, mais bien, chers frères, il est important de le redire, le siège de l'amour, de la charité, est dans la volonté. Et c'est pourquoi il est capable de traverser bien des épreuves, et de durer dans le temps, et même dans l'éternité. Bonne nouvelle. Mais mes bien chers frères, la volonté se forme, elle s'éduque, notamment par des exercices quotidiens, et d'abord en famille. C'est ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle d'ailleurs, l'éducation aux vertus. Oui, la famille est la première école des vertus. Le drame actuel, ou un des drames actuels, c'est que l'État ne sait plus reconnaître et soutenir les parents dans leur mission éducative. L'État Big Brother veut s'arroger cette mission qui revient d'abord aux parents. Les parents sont, dans le plan de Dieu, les premiers éducateurs des enfants. Ce n'est pas l'État. L'école et les autres relais éducatifs, pour nécessaires qu'ils soient, ne sont là que pour aider les parents dans leurs tâches éducatives. Mais bien, chers frères, il faut être vigilant, et je sais que vous l'êtes, il faut être aujourd'hui vigilant et prêt à se mobiliser sur ce front, comme sur beaucoup d'autres fronts, hélas. Alors contemplons aujourd'hui l'humble demeure de Nazareth, et écoutons quelques instants Saint Jean-Paul II. J'ai déjà cité souvent, sans doute, ce passage de Jean-Paul II que j'aime beaucoup, mais nous le réécoutons avec plaisir. Nous apprenons ici, à Nazareth, dit Jean-Paul II, que chaque cellule familiale chrétienne est appelée à être une petite église domestique dans laquelle doivent resplendir les vertus évangéliques. Recueillement et prière, compréhension et respect mutuel, discipline personnelle et ascèse communautaire, esprit de sacrifice, travail et solidarité sont les caractéristiques propres qui font de la famille de Nazareth le modèle de tout foyer domestique. Belle citation. Mais bien, chers frères, ce qui rend évidemment belle et aimable la vie de nos familles qui essayent de reproduire ce modèle de la Sainte Famille, c'est bien sûr l'amour reçu et partagé, sans lequel toutes ces vertus que nous venons d'énumérer sont tristes et pesantes. Prier sans aimer Dieu est triste et pesant. Travailler sans aimer son travail est triste et pesant. Servir sans aimer ce qu'on sert est triste et pesant. Mais tout ce qui est fait par amour, avec amour, est source de joie et rend le cœur léger. Nous en avons, j'en suis sûr, tous fait l'expérience, une heureuse expérience. Les familles ont la belle et difficile mission de former aux vertus naturelles, aux vertus surnaturelles, et bien sûr donc le socle étant l'humilité et le couronnement, la charité. Oui, il ne faut jamais oublier ces deux vertus vraiment essentielles, l'humilité et la charité. Et c'est bien le conseil que nous donnait saint Paul tout à l'heure dans l'Épître. L'Église a choisi à dessein cet Épître pour la fête de la Sainte Famille. Je vous invite à relire, peut-être chez vous ce soir dans la prière, l'Épître d'aujourd'hui, de la Sainte Famille. Alors bien sûr, nos familles ne sont pas parfaites, loin de là, nous le savons. Et c'est une cause de souffrance, parfois connue, souvent secrète. Mais c'est une raison supplémentaire, mes bien chers frères, pour contempler la Sainte Famille. Raison supplémentaire de la prier et de lui demander la grâce d'être au milieu de ce monde déchiré par la haine, la violence et souvent le désespoir, d'être témoin et reflet de l'amour gratuit et fidèle de Dieu pour tous les hommes. Alors confions cette intention spécialement à Saint Joseph, le grand, le bon Saint Joseph, à qui l'année a été consacrée par le pape François. Et je vous propose de terminer justement par une belle prière du pape Léon XIII à Saint Joseph comme protecteur de la Sainte Église. Nous pouvons évidemment transposer cette prière aussi à Saint Joseph, protecteur de toutes nos familles, de chacune de nos familles. Nous recourons à vous dans nos épreuves, bienheureux Joseph. Et après avoir imploré le secours de votre très sainte épouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre protection. Par l'affection qui vous a unie à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel dont vous avez entouré l'enfant Jésus, nous vous supplions de regarder avec bonté l'héritage que Jésus-Christ est acquis de son sang. Que votre puissance vienne à notre secours dans nos besoins. Protégez, ô très sage gardien de la divine famille, la race élue de Jésus-Christ. Préservez-nous, ô Père très aimant, de l'erreur et de la corruption. Soyez-nous propices et assistez-nous du haut du ciel, ô notre très puissant libérateur, dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres. De même que vous avez arraché autrefois l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu et chacune de nos familles, des embûches de l'ennemi et de toute adversité. Accordez-nous votre perpétuelle protection, afin qu'à votre exemple et par votre secours, nous puissions vivre dans la sainteté, mourir dans la grâce et parvenir à l'éternel bonheur du ciel. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.